Rebonsoir, chers auditrices, auditeurs de Radio Okapi. Nous revenons dans ce studio, cette fois-ci, avec des analystes qui vont à leur tour donner leurs avis sur le déroulement du scrutin de ce jour. Donna Madimba m'a rejoint dans ce studio pour la présentation de cette deuxième et dernière partie de l'émission. Bonsoir, Donna.
Bonsoir, Kéline Kouté, et à tout le public de Radio Okapi qui nous consomme aussi bien en FM que sur toutes nos plateformes digitales.
Dans cette dernière partie, nous recevons pour les débats le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Okapi.
Gaucher Kizito, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'Université catholique de Graben à Butembo. Nous sommes au Nord Kivu. Professeur Gaucher Kizito, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir mon prof Bob, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Trésor Kibangula est aussi avec nous dans cette émission. Il est analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Trésor Kibangula, bonsoir.
Bonsoir madame.
Louis Magloire Kemayou, avec nous aussi dans ce studio, journaliste camerounais. Il est écrivain et président du club de la formation africaine. Louis Magloire Kemayou, bonsoir et bienvenue à Radio Okapi.
Merci, bonsoir et merci de m'accueillir dans vos studios. Je les découvre et c'est avec énormément de plaisir parce que jusqu'à présent j'intervenais par téléphone. Uh-huh. Et là vous rencontrez de visu et échanger avec vous à la maison. C'est un plaisir différent, mais tout aussi intéressant.
Plaisir partagé. Merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre via nos plateformes numériques, mais également sur la FM. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Alors, Kéline Kouté, nous avons une introduction avec votre première partie fait dans cette émission spéciale, la situation des élections de ce 20 décembre en République démocratique du Congo. Il est rapporté une situation mitigée, des endroits où globalement les élections se sont bien déroulées et certains endroits où on signale des dysfonctionnements et même des bureaux qui n'ont pas pu ouvrir jusqu'à l'heure où nous sommes en train de produire cette deuxième partie de la spéciale élection République démocratique du Congo. La rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante s'est exprimée dans la journée sur l'ensemble des opérations d'aujourd'hui. Patricia Nseya est au micro de Jeff Ngoy.
La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prise, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse, tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures tel que prévu par la loi pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quel regard jetez-vous globalement sur le déroulement des élections de ce 20 décembre en République démocratique du Congo et quel est votre avis sur la position exprimée tout à l'heure que nous venons d'entendre de la CENI?
Alors d'abord, il faut saluer les électeurs de la RDC. Qui se sont quand même déplacés pour aller exercer leur droit de vote, ce qui est important. Il y a aussi un indicateur qui montre bien qu'il y avait vraiment une attente importante de la part des électeurs pour arriver à exprimer leur droit de vote. C'est vraiment un élément à souligner. L'autre élément qu'il faut mettre en exergue, c'est par rapport à cette attente des électeurs qui attendaient beaucoup de ce scrutin, et la réponse qui est venue de la part de l'administration électorale de la CENI n'a pas été à la hauteur des attentes. Vous avez souligné les débuts, globalement, les débuts du scrutin avec beaucoup de retard et avec le manque de matériel, etc., ce qui aura certainement un impact sur le taux de participation. Par ailleurs aussi, ce qui est important de souligner, en lisant le rapport fait par la SINCO et l'FSC, qui souligne quand même beaucoup de choses et qui doivent quand même nous interpeller tous, notamment en lisant les chiffres qu'ils ont publiés. On parle de 31% qui n'ont pas ouvert ou pas ouvert, 45% en fait, 45% qui ont connu des problèmes, et dans plus ou moins 10% où il y a encore eu de la violence, etc. Rien qu'analyser ces chiffres, ça donne froid dans le dos, et en essayant de calculer, de pouvoir se projeter par rapport à l'ensemble du pays, il ressort de cette première constat de l'SSC, SSC-5O, que presque 90% des bureaux de vote ont connu des problèmes. Et lorsque 90% connaissent des problèmes par rapport à un scrutin, cela pose véritablement la question par rapport à la crédibilité, mais aussi pour une question aussi par rapport justement à la transparence qui est de mise lorsque l'on doit parler des élections démocratiques. Et les incidents qui ont émaillé un petit peu partout, ce n'est pas des incidents qui sont isolés, ce sont des incidents qui sont pas isolés, mais que l'on voit pratiquement généralisés en trois catégories, soit la question liée aux témoins, la question liée aux observateurs, la violence faite vis-à-vis de certains témoins, vis-à-vis de certains candidats, et que, là, en regardant dans l'ensemble, on peut être vraiment déçu de la réponse qu'a apportée l'administration électorale par rapport à l'attente que les Congolais attendent toujours par rapport à un tel scrutin.
Bob Kamba,
aujourd'hui, vous avez dit oui.
Bob Kamba, vous gardez la parole, mais vous référez beaucoup à ce rapport que vous mentionnez de l'Église catholique et de l'Église protestante. Selon vous, est-ce qu'un tel rapport n'est pas trop précipité, trop tôt pour être crédible? Et puis vous-même, à part ce rapport, est-ce que vous aviez eu un autre moyen de contrebalancer ce que disent ces deux églises, ou bien juste par habitude de faire confiance, vous faites confiance?
Donc, je dois dire, je suis membre d'un réseau de citoyens observateurs qui sont en plus de 700 à travers toute la République et qui publient et qui envoient des informations par rapport à leur bureau de vote, ce qu'ils sont en train de constater. Il y a encore un autre réseau aussi dans lequel je suis, qui aussi a déployé des observateurs un peu sur le terrain et qui envoie aussi des éléments par rapport à toute une série de sièges, à toute une série de centres de vote. Et aussi, bien sûr, il y a beaucoup de candidats qui aussi publient et envoient toute une série d'éléments dans leur circonscription et qui constatent effectivement ce qui est en train de se passer et qui se désolent un petit peu de l'amateurisme, on peut dire de manière générale, du niveau d'organisation que l'on constate sur le terrain.
Voilà. La CENI a amélioré certains dysfonctionnements dans les centres de vote. Et au moment où nous parlons, les électeurs, le vote se poursuit dans certains bureaux de vote, professeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre peut-être la fin des votes pour pouvoir dresser un bilan?
Non, parce que un processus électoral, ce n'est pas uniquement la fin d'un vote. Un processus électoral, c'est depuis toutes les opérations pré, pendant et après les élections que l'on observe. Et qu'au fur et à mesure, on fait ce qu'on appelle des photos instantanées, qui vous donnent à un moment donné à quel niveau et comment se prépare, comment c'est en train de se faire. Et ces remarques, bien entendu, sont remontées au niveau de la CENI. Et lorsque l'on regarde la réponse que la CENI donne, la preuve que vous venez de dire, qu'on continue à voter, mais malheureusement, madame, il y a toujours des endroits ce soir où on ne sait toujours pas s'il y aura vote ou il n'y aura pas vote. Je parle par exemple de Cabaret où j'étais en contact avec beaucoup de candidats et qui n'ont pas encore voté, dont certains centres de vote ne sont toujours pas ouverts. J'ai aussi été en contact avec des candidats qui sont dans le hall Omami et qui ne savent même plus s'il y aura élection. On leur dit qu'il y aura élection dans 3 jours. Maintenant, ils ne savent plus s'il y aura élection dans 3 jours ou pas. Et aussi d'autres candidats que je connais qui sont dans la province orientale et qui me disent, mais aussi la province orientale, voire même la province de l'Équateur, et qui me disent aussi la même chose, qu'ils ont vraiment du mal à avoir une planification, à savoir si effectivement il va y avoir vote ou pas. On promet, il n'y a pas beaucoup de communication de la part de l'administration électorale pour essayer de calmer, non seulement calmer, mais aussi essayer de donner des réponses que les uns et les autres, toutes les parties, attendent, et que si on ne donne pas de réponses, et on n'a pas de réponse, on a des rumeurs, et on a des fake news qui circulent et qui constituent, entre guillemets, les seules sources que l'on peut avoir pour contrebalancer, entre guillemets, les affirmations de la CENI.
Merci, professeur Bob Kabamba. Nous restons avec vous dans cette émission. Gauthier Kizito, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université catholique de Graben à Butembo, province du Nord Kivu. Il y a un mot qui est revenu systématiquement dans beaucoup d'analyses et dans cette émission aussi, le mot chaotique. Les élections se poursuivent encore sur beaucoup de centres et certains, à l'heure où nous produisons ces émissions, n'ont pas encore ouvert. Ils pourront peut-être ouvrir, on le saura après. Est-ce que c'est indiqué à ce stade d'utiliser le mot chaotique? Et puis, est-ce que c'est catégorique de considérer que le rapport de l'Église catholique, de l'Église protestante et de quelques autres observateurs peuvent, à ce stade, être considérés comme définitifs?
Merci pour la parole. Et effectivement, les scrutins combinés ont effectivement eu lieu ce mercredi 20 décembre 2023, tel que prévu par la CENI. Et comme l'a dit Bob Kabamba, c'est un élément qu'ils font quand même mentionner. De bon matin, les Congolais se sont levés et ont pris dans saut des centres et des bureaux de vote pour aller exercer ce droit de vote. Ce qui est vraiment intéressant dans un contexte très volatile de notre pays, et particulièrement de l'Est avec cette insécurité. Et c'est donc, pour la CENI, c'est un défi qui a été relevé. Néanmoins, comme vous le savez, et il y a quand même beaucoup de faits à soulever, notamment du point de vue dysfonctionnement, du point de vue organisationnel, mais aussi du point de vue technique. Et les éléments que je note, je les tiens parce que bon, je me suis déplacé de bon matin pour aller moi-même exercer mon droit de vote. Et sur le site ou le centre de vote, ainsi que dans les différents bureaux, on a constaté réellement beaucoup de difficultés. Alors qu'on le sait bien, 2023, c'est en effet le quatrième cycle électoral dans lequel nous nous situons maintenant. Depuis 2007, passant par 2011 jusqu'à 2018. Et donc, on aurait pu penser quand même que ces expériences électorales auraient permis quand même à la CENI de pouvoir organiser des élections plus ou moins acceptables que ce que nous avons constaté sur le terrain. Alors, de ces difficultés que nous avons mentionnées, peut-être, si le temps nous permet, je voulais peut-être relever un certain nombre de dysfonctionnements, et pas seulement en Nord-Kivu ou dans toutes les provinces, on a constaté réellement qu'il y a ces difficultés. Et les éléments que nous tenons, comme je l'ai bien dit il y a quelques temps, c'est aussi dans les différentes régions dans lesquelles nous sommes intégrés, et il y a une floraison des formations qui circulent, et qui font que, on a noté notamment que, beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert à temps, ou pas du tout. Beaucoup de bureaux de vote ont ouvert, mais ne disposaient pas de tout le matériel. On a observé aussi un dysfonctionnement dans certaines machines, notamment l'autonomie d'énergie, qui faisait que la machine aussitôt démarrait, s'arrêtait du coup. La difficulté des localisations de bureaux de vote par nombre d'électeurs. Personnellement, j'ai eu à aider certains électeurs à pouvoir retrouver facilement leur nom sur les listes électorales, mais aussi leur bureau de vote. Et certains bureaux de vote qui ont été saccagés par un toit, on peut voir par exemple ce qui s'est passé à Nitouri, à Bounia, à Muzipela, des violences proférées par des supporters des uns et des autres, des déplacés de guerre, notamment à l'Est, qui ont eu du mal réellement à exercer ce droit politique, et certains témoins observateurs qui ont eu aussi des soucis en pouvoir entrer dans les bureaux de vote pour pouvoir servir exactement d'observateurs ou de témoins, des électeurs qui, du coup, et par impatience, se mettaient carrément en rentrée sans avoir voté, ce qui était aussi quand même une situation difficile que nous avons observé, que nous avons connu, des machines à voter qu'on a trouvées dans les rues ou par moments emportées, et certains bureaux et matériels qui ont été saccagés.
Mais professeur, est-ce qu'il faut...
On se rend compte que le déroulement des élections dans cet environnement rassure moins.
Mais est-ce que...
Contrairement au communiqué de presse.
Professeur, oui, vous entendez? Est-ce que vous venez de mentionner là les difficultés, hein, et on met moins l'accent sur le côté où ça a réussi, quelle est l'ampleur des réussites, et comme nous le disions en introduction, les votes se poursuivent. Est-ce qu'à ce stade, on sait si ce qui a déjà été consommé comme opération et ce qui ne l'est pas encore, et ce qui est encore en cours, la balance pèse beaucoup plus de quel côté, et une fois qu'on a fait la synthèse de tout, est-ce qu'on peut, à ce stade, à cette heure, donner un avis définitif qui pourrait dire à la population si ces élections peuvent être crédibles, si elles peuvent être annulées ou si elles peuvent prendre plusieurs jours à se poursuivre?
Oui, à ce stade, comme vous venez en peine de le mentionner, comme Bob l'a mentionné, il y a encore des centres de vote qui sont encore fonctionnels. Et du coup, à ce stade, on ne sait pas réellement dire avec beaucoup de précision sur la validité ou la non-validité de ces élections. Néanmoins, lorsqu'on observe le fait ou on rappelle les faits qui constituent réellement des éléments de dysfonctionnement du point de vue organisationnel et du point de vue de la logistique, ça fait qu'on peut quand même ne pas s'empêcher de dire qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation de ces élections. Et du coup, comme je venais en peine de le mentionner, cet environnement rassure moins.
Alors, professeur Gaucher Kizito, je veux peut-être renchérir sur la question de Dona Madimba de tout à l'heure. Le tableau que vous venez de peindre là est tellement sombre, hein, dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans différents bureaux de vote à travers le pays. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas eu du positif dans l'organisation de ces élections?
Oui, le positif, je pense que j'ai mentionné à certains endroits en disant que bon voilà, ça c'est un défi quand même que la CENI a pu relever en organisant des élections. Il est vrai qu'il y a des bureaux de vote qui ont ouvert et dans lesquels les gens ont voté librement. Et personnellement, comme je l'ai dit à mes déplacés pour aller exercer mon droit de vote, j'ai voté sans beaucoup de difficultés, mais en observant par exemple, je peux peut-être le dire tout de suite, certains électeurs qui ont du mal à lire, qui ont du mal à retrouver peut-être le nom ou le numéro de leur candidat. Et du coup, là, je pense que du point de vue même de l'éducation électorale par les différents acteurs impliqués dans les processus électoraux a failli à ce niveau-là. Autrement dit, les acteurs impliqués dans les processus électoraux n'ont pas mis une focale ou une attention importante sur l'éducation des électeurs pour que les électeurs aient la facilité de pouvoir, 1, identifier les bureaux de vote et 2, de maîtriser les processus électoraux dès que l'électeur rentre dans le bureau de vote.
Merci.
Donc, autrement dit,
merci, professeur.
Je suis donc de l'avis qu'il y a certains éléments qui sont positifs, mais aussi les tableaux quand même. Comme je le peins, il y a beaucoup de faits qui montrent qu'il y a réellement un dysfonctionnement majeur.
Merci, professeur Gauthier Kizito. Trésor Kimangula, avant de vous donner la parole, on va lire quelques réactions des internautes qui sont très très nombreux à nous suivre sous la page Facebook de Radio Capi. David Wedi, depuis Kinshasa, nous venons de nous acquitter de notre devoir de voter malgré quelques difficultés rencontrées. Nous attendons calmement et tranquillement la publication des vrais résultats et non pas des résultats truqués, voilà, et frauduleux, voilà, merci. Olivier Mouloubi, opportun, qui nous suit depuis la ville de Kamituga, au sud Kivu. Je suis à l'école française, devant le bureau de vote, il y a plein de gens qui attendent afin de voter, mais il n'y a que deux machines qui fonctionnent. Il est 21h15, il y a plus de 300 personnes dehors. Je pense que l'éditeur a envoyé ce message quand il était 21h15 heure de Bukavu, je crois 20h15 heure de Kinshasa. Trésor Kibangula, vous êtes analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Votre analyse sur le déroulement du scrutin de ce 20 décembre 2023.
Oui, merci beaucoup, Madame Kelly. Je pense que le déroulement du vote aujourd'hui n'a pas dissipé nos inquiétudes liées à la capacité technique de la CENI à organiser des élections crédibles, la capacité de la CENI à organiser tout simplement des élections dans le temps. Il y a eu beaucoup de signaux inquiétants qui devaient déjà alerter que des défis étaient énormes. Mais aujourd'hui, comme on sait, on a fait une sorte de passage en force qui allait malgré tout, malgré ces alertes, ces signaux qui étaient au rouge, les constatations qui remontent du terrain des diverses missions d'observation indépendantes. Nous-mêmes, à Ebouteli, on a déployé à petite échelle des observateurs à Kinshasa et à Goma. Ces constatations confirment que ces défis majeurs en termes de logistique, des transparences et des gestions même des équipements des votes se posent. Encore, on a vu des cas des machines qui ont été envoyées dans des sites de vote alors qu'ils étaient destinés à d'autres sites, à d'autres bureaux de vote. En fait, on ne peut pas juger ces élections en regardant juste ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'aime comparer ces processus électoraux à l'histoire de cet homme qui tombe du haut d'un immeuble de 50 étages, raconté au début du film La Haine. Cet homme, au fur et à mesure de sa chute, il se répétait sans cesse pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais en fait, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et aujourd'hui, le processus électoral congolais est en train d'atterrir. Et comment on va toucher les sols? C'est tous les problèmes, parce que tout au long de ces processus, il y a eu des couacs. Il y a eu la question de la mise en place controversée des animateurs de la CENI. Il faut rappeler que la nouvelle équipe de la CENI a été mise en place avec un retard de 28 mois. Malgré tout, elle a publié un calendrier très resserré pour respecter les délais constitutionnels, parce que ici au Congo, une certaine opinion qui est majoritaire, je pense, fait croire que le respect des délais prime sur la qualité des élections. Alors, il faut tout faire pour organiser coûte que coûte, bâclé soit-il, il faut coûte que coûte organiser des scrutins dans les délais. Et aujourd'hui, on est en train juste de vivre les conséquences de cette précipitation pour tenir les délais constitutionnels malgré toutes les controverses qui ont entouré ces processus. On a eu des soucis ou des controverses autour de l'enrôlement des électeurs, les listes provisoires qui sont censées être publiées légalement. C'est une contrainte légale de publier les listes provisoires des électeurs pour que les électeurs puissent savoir s'ils sont dedans. Ça nous est peut-être éviter aujourd'hui certains difficultés, des électeurs qui ne se retrouvent pas dans les listes électorales. Il y a eu des controverses autour même de l'audit des fichiers électoraux. Il y a même aujourd'hui des tensions internes au sein de la CENI. Il faut rappeler que trois mois avant aujourd'hui, il y a eu la suspension du secrétaire exécutif de la CENI. Donc, tout va bien, on nous répétait sur la CENI, puis il y a eu cet épisode des courriers au gouvernement mettant finalement les défis de justice, parce que la CENI a commencé à réclamer des hélicoptères ici, des autonomes là-bas, et le gouvernement s'est tourné vers la Monico. En même temps, la Monico est sommée de partir. Donc, je pense que tout ceci rattrape aujourd'hui les processus électoraux et on constate malgré nous que des défis majeurs que plusieurs fois les organisations à travers nos rapports on a relevé en termes des problèmes logistiques qui s'est posé encore, des problèmes de transparence et de gestion des équipements, ben ça se pose encore et on a vu aujourd'hui sur
le terrain. Trésor Kibangula, c'est ce que vous dites ce soir, c'est en grande partie ce que vous avez dit pendant tous les processus dans nos échanges avec vous, mais devant vous, il y avait aussi des camps qui vous opposaient des arguments contraires. Est-ce que ce soir, on n'est pas resté dans cette réalité de verre à moitié vide, à moitié plein, vous parlez des problèmes récurrents, mais il faut signaler aussi des processus ou des opérations qui n'ont pas connu plus ou moins de problèmes. Selon notre regard, on peut se tromper. Il y a eu l'enrôlement, il y a eu l'audit du fichier, il y a eu l'inclusion de quelques pays de la diaspora, il y a eu la réception des candidatures, aussi bien aux députations qu'à la présidentielle. Ces opérations semblent s'être déroulées plus ou moins de manière acceptable selon ce que nous avons monitoré. Est-ce que aujourd'hui on ne s'arrête pas sur le fait que peut-être la logistique finalement et a été la faiblesse qui a fait écrouler tout l'édifice, comme vous l'expliquez tout à l'heure?
Mais la logistique, c'est très capital lorsqu'on organise des élections dans un pays continent comme la République démocratique du Congo. Ça interroge la capacité d'anticipation d'une commission électorale nationale. Est-ce qu'on a pris en compte le fait que les matériels électoraux qui... On va parler des matériels sensibles qui sont arrivés à Kinshasa, de la Chine, devaient être... dépêchés, déployés à travers les pays dans le Congo profond. Est-ce qu'on a tenu compte du temps qu'il fallait prendre? Parce que, comme je disais, les respects des délais, lorsqu'on s'est dit il faut organiser les choses toujours dans le temps, peu importe si bon, plusieurs bureaux n'arrivent pas à ouvrir. J'ai entendu le président de la CENI tout à l'heure que peut-être d'autres centres, des centres qui n'ont pas ouvert, vont pouvoir les faire demain. Je ne suis pas en train de dire que tout est noir dans l'organisation de ces élections. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de problèmes tout au long du processus, un processus qui a beaucoup manqué de confiance entre parties prenantes, et il y a eu, ça s'est instauré une sorte de méfiance très profonde entre les parties prenantes, et cette méfiance a poussé la CENI à continuer à avancer, souvent malgré les appels à l'ouverture, malgré les mains tendues pour essayer de crédibiliser plus ou moins les processus. Et aujourd'hui, on se retrouve vers la fin du processus et on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes. Aujourd'hui, ça aurait été préférable que les inquiétudes sur l'organisation technique des élections qu'on avait puissent être dissipées. En tout cas, c'est pas le cas lorsqu'on regarde du point de vue global ce qui se passe à travers les pays, des images qui remontent, des rapports qui remontent du terrain.
Alors, Louis Magloire Kemaye, journaliste camerounais, écrivain et président du Club de l'information africaine, les questionnaires d'ici vous intéressent beaucoup en tant que journaliste et même africain. On voudra avoir votre regard en tant que journaliste et écrivain, voilà, étranger, sur le déroulement de l'élection aujourd'hui en RDC.
Le regard de Louis Magloire est d'autant plus intéressant qu'il est, puisque ceux qui viennent de s'exprimer sont plus ou moins des Congolais, et un journaliste qui peut analyser les histoires de loin, mais aussi en fonction du fait qu'il est un peu extérieur au pays, peut peut-être nous donner un regard que les gens ne vont pas considérer comme un regard du pays.
Oui, cela dit, je serai quand même assez humble dans mon analyse, parce que, comme le rappelait Trésor, la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Il fait 4 fois la superficie de la France, 2 300 000, voire 2 400 000 km². Je n'ai pas fait toutes les grandes provinces de la RDC pour pouvoir m'exprimer sur l'ensemble du processus. Cela dit, ce que nous avons vécu à Kinshasa nous donne quand même un aperçu de la manière dont les choses ont été gérées. J'ai par exemple été à l'Athénée pour voir, parce que initialement c'est là-bas que le président devait voter. Puis après, le choix a été porté sur le collège Saint-Georges, où je suis allé également. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un véritable engouement. Il y a beaucoup de Congolais qui se sont déplacés pour aller accomplir leur devoir de citoyen. Mais à côté de ça, on leur a expliqué que du fait de la logistique qui était défaillante, on a privilégié les villes de l'intérieur du pays. Et donc c'est à l'intérieur du pays qu'on a déployé le matériel électoral en premier. Et à Kinshasa, il fallait patienter, prendre son mal en patience, jusqu'à ce que ce déploiement soit terminé à l'intérieur du pays. De l'autre côté, toutes les personnes qui viennent voter ne sont pas toujours dans la force de l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des personnes du troisième âge qui sont venues, il y a des personnes de la cinquantaine, voire un peu moins, qui sont venues. Elles ne peuvent pas rester jusqu'à midi, 15h ou 18h avec la même patience et la même facilité physique que des jeunes. Et donc, beaucoup ont dû repartir. Pour moi, ça montre que la CENI, même si elle a fait d'énormes efforts, au regard des difficultés qui ont été les siennes, à s'organiser, à se déployer et à organiser un scrutin à la fois inclusif dans les normes de l'art et sans contestation, il y a quand même un problème d'accueil des électeurs qui s'est posé. Ceux qui sont les plus âgés ou les plus malades, les plus fragiles, ne pourront jamais aller jusqu'au bout du processus si on n'organise pas des conditions qui leur permettent de voter de façon prioritaire ou d'être accueillis dignement pour que le moment venu, ils mettent leur bulletin dans l'urne comme tout le monde. Donc ça, je l'ai remarqué. Mais de l'autre côté, je voudrais aussi tempérer parce que, justement, parce qu'on est dans un pays continent, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas facile. Sur le plan de la logistique, les routes ne sont pas toujours praticables, les avions ne sont pas à la portée de tout le monde, et même si les voisins et des pays comme l'Égypte ou les Nations Unies, de façon plus générale, se sont déployés pour aider la CENI dans l'organisation du scrutin, cela s'est fait dans la précipitation tout de même. Et donc je crois que tout cela doit être pris en compte pour faire en sorte que des leçons soient tirées. On a parlé d'année zéro en 2008 quand on organisait les élections pour que le président Kabila, Joseph Kabila, soit le premier président démocratiquement élu du pays. Mais depuis, j'ai l'impression que l'inclusivité est devenue quelque chose d'optionnel. Parce qu'on a fait le 1 plus 4 qui a permis à la fois au président élu et aux tendances qui étaient considérées comme rebelles d'être impliqués dans la gestion du pays, de ne pas avoir l'impression qu'il y a le pays et leurs intérêts, et que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui l'emporte sur le reste. Mais depuis ce 1 plus 4, il n'y a plus rien eu de tel. Et c'est cela, moi, qui m'inquiète en tant qu'observateur étranger, en tant que ressortissant d'un pays de la CEAC. Nous sommes quand même 11 pays dans cette communauté, dont la RDC. Et la RDC, pour moi, c'est le Nigeria de l'Afrique francophone. Et tant que le Nigeria va mal, je ne vois pas comment on peut se réjouir en tant que francophone ou en tant qu'Africain de l'Afrique centrale, par exemple. Donc pour moi, il est important que l'élection se passe bien en RDC, et pour ça, il est important que les acteurs politiques qui sont partie prenante du processus aient à cœur d'organiser des élections qui ne servent pas uniquement à voir qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu, mais que la nation a gagné en expérience, a gagné en inclusivité, a gagné en développement. Mais pour moi, toutes ces considérations-là, pour le moment, n'ont pas été mises dans la balance. Et l'autre chose aussi qu'il faut relever, c'est que le fait de coupler autant d'élections en une seule, peut-être que sur le plan des dépenses, c'est une bonne idée, mais sur le plan de la vie démocratique, pour moi, c'est un défi qui n'est pas toujours très heureux à relever, vu comment ça se termine la plupart du temps, où on conteste parfois l'élection du président en lui disant comment tu peux gagner, par exemple, la présidentielle et ne pas avoir la majorité sur le plan national, sur le plan provincial, voire au niveau des mairies. Je ne sais pas comment on appelle les mairies ici, mais...
Des conseillers municipaux, voilà.
Voilà, au niveau des conseillers municipaux. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut arriver à résoudre toutes ces équations-là, mais sans se dire que ce qui est le plus important, ce sont les couacs. Ce qui est important, c'est de tirer les leçons de ce qui a conduit aux couacs et de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins au fil du développement, du déroulement des processus. Si après 4 élections, nous en sommes encore à avoir une commission électorale nationale indépendante qui est renouvelée à 1 an des élections avec des moyens à la fois financiers, humains et techniques douteux, pour moi c'est un vrai problème. Il faut arriver à faire une commission électorale nationale qui soit stable, qui puisse travailler sur la durée, et puis surtout que le processus d'identification des électeurs soit quelque chose d'incontestable, parce qu'il ne repose pas que sur le bulletin de vote ou la carte d'électeur, mais qu'il repose également sur l'identification de la population, que l'on puisse à la naissance être certain que tous les citoyens qui naissent soit répertorié et qu'au moment de l'élection, on est juste à la fin d'un processus où, parce que vous avez atteint votre maturité, c'est logique et mécanique que vous obteniez votre carte d'électeur. Pour moi, ce sont toutes ces considérations qu'il faut mettre dans la balance et non pas se focaliser sur le fait que dans le Rutshuru ou le Masisi, il n'y a pas eu d'élection ou qu'à Kinshasa, ça a pris un peu de temps pour se dérouler, mais faire que le processus soit national, qu'il soit sur la longue durée et que le long format, le grand format qu'est l'élection, se passe bien. Personnellement, je considère que quand on arrive à une élection, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une élection présidentielle, d'une législative ou d'une municipale, c'est comme si on jouait la finale, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut que tous les acteurs soient capables de jouer leur partition et que tous les arbitres qui sont là pour veiller à ce que les règles du jeu soient respectées, qu'ils soient à la hauteur de l'événement également. Dès lors qu'on n'a pas rassemblé tous ces ingrédients, il est à peu près normal qu'on ait une élection qui débouche sur ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, sur une crise post-électorale, et ce n'est pas ce que je souhaite personnellement à la République démocratique du Congo.
Vous avez parlé de précipitation, beaucoup de Congolais ont estimé aussi que les choses se sont faites dans la précipitation. Certains demandent carrément l'annulation de ces élections parce qu'ils estiment qu'elles sont chaotiques. Vous pensez que les dysfonctionnements qu'il y a eu aujourd'hui lors du vote pousseraient à aller jusqu'à l'annulation de scrutin?
Non, je crois que la conservation du tissu social est quelque chose de prépondérant. On a pris l'habitude sur le continent africain de faire des élections un moment de pré-crise dans la plupart des pays, et je crois que cette considération doit changer pour qu'on en arrive à comprendre que la longévité du pays l'emporte sur la longévité au pouvoir. En d'autres termes, fabriquer des institutions suffisamment stables, à commencer par la CENI, voire la présidence et les députés, c'est quelque chose de prioritaire. Si on arrive à le faire, peut-être que ça ne servira pas les intérêts des politiciens qui sont en compétition actuellement. Mais une fois qu'on aura installé un processus suffisamment inclusif, suffisamment inattaquable sur sa qualité et sur son impartialité, je crois que cela profitera à tout le monde et que l'objectif qui sera poursuivi à terme ne sera plus de savoir qui assure l'alternance ou pas, mais comment on fait pour que d'une personne à une autre qui arrive dans la gestion des affaires publiques, on ait un gain, on ait une continuité dans les affaires publiques. C'est ça qui devrait l'emporter. C'est pas la querelle de personnes. Personnellement, que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit Moïse Katumbi ou que ce soit Félix Tshisekedi, ça n'a aucune importance. Ils rentreront dans l'histoire, mais celui qui restera en permanence dans l'histoire, c'est le peuple congolais. C'est lui qui doit gagner à la fin du processus.
Je pense qu'on va passer aux auditeurs, on va ouvrir notre standard pour écouter ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue sur le déroulement du scrutin aujourd'hui en RDC. On va se rendre dans quelle province déjà, Dona?
Bon, étant donné que Louis Magloire Kemayou avait la parole tout à l'heure, autant commencer avec lui. Et pour lui, j'avais souhaité qu'il écoute le commentaire de Naomi, qui nous appelle de Bukavu. On a tout tenté pour l'avoir avec sa propre voix, comme tous les autres auditeurs. On n'a pas réussi aujourd'hui, vu les difficultés téléphoniques qu'on avait. Mais voici ce que Naomi dit. Je lis, même dans la manière avec laquelle elle a écrit son message. Le déroulement de ces élections, c'est vraiment médiocre. Beaucoup d'électeurs sur une file d'attente pour attendre l'exécution de leur choix. Trop d'engouement, les gens se bousculent ici juste pour rentrer dans le bureau de vote. Nous saluons la CENI pour le respect de la date, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore jusqu'ici sur les files. L'enrôlement avait pris 3 mois et bon nombre de gens n'avaient pas reçu de carte maintenant. On se demande, sur 44 millions d'électeurs attendus aujourd'hui, est-ce que la moitié sera reçue? Et puis elle conclut en disant, je suggère à la Cour constitutionnelle de proroger encore un jour pour que tout Congolais puisse jouir de son droit de vote qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Dans un premier temps, je pense qu'elle a été entendue au-delà de ses espérances, puisque la CENI dit que dans les endroits où le déploiement n'a pas pu se faire à temps, on pourra prolonger d'un jour les opérations de vote. Donc, elle a été largement entendue de ce point de vue. Maintenant, sur la question de la médiocrité des élections, ça reste très subjectif. Chacun vit son expérience à sa manière et livre ses impressions depuis sa fenêtre. Je ne vais pas lui contester cela, c'est elle qui a vécu l'expérience. Donc, elle est légitime pour dire que c'est médiocre. Cela dit, elle n'est pas tout le Congo, elle n'est pas tous les Congolais. Vous en trouverez beaucoup qui vous diront qu'ils ont voté en moins de 10 minutes et que tout s'est parfaitement bien passé. Et ils seront tout aussi légitimes qu'elle pour dire « ce processus, je le trouve parfait ». Donc c'est une question de subjectivité sur laquelle je ne peux pas avoir de prise pour contester ou pour légitimer le point de vue de la personne qui s'est exprimée. C'est elle qui était sur le terrain, c'est elle qui a vécu tout cela, et qui suis-je pour lui dire qu'elle a mal vécu ou bien vécu son expérience. De ce point de vue-là, j'ai pas grand chose à dire. Cela dit, encore une fois, pour moi, à la fois la CENI et le gouvernement congolais doivent avoir à cœur de satisfaire les Congolais. Ils sont au service de la nation, ils sont au service des populations congolaises. Et ils doivent s'arranger pour que ces populations, même si elles vivent des désagréments au moment du processus, que ces désagréments soient mineurs. Plus ils sont élevés, moins on sent du professionnalisme et une qualité de service dans le travail qui a été fait à la fois par la CENI et par le gouvernement. Et je pense que l'objectif pour la CENI et pour le gouvernement, c'est que à la fin du processus, les électeurs se disent qu'ils ont eu les élections qu'ils méritent, parce que c'est leur argent qui finance ce processus.
Merci, Luma Gloire Kemayou.
Kelly, vous avez le deuxième auditeur.
D'accord.
Pour le professeur Bob Kabamba. Il nous vient de quelle province
le deuxième auditeur pour le professeur Kabamba, c'est Rémi de Kisangani.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Nonobstant le climat tendu entre le pouvoir et l'opposition qui s'accusaient mutuellement de la fraude qui serait préparée en avance pour ces élections, il y a lieu de reconnaître que les scrutins se sont déroulés aujourd'hui dans le calme sur l'ensemble du pays de manière globale. Toutefois, il y a eu quand même beaucoup de ratés sur le plan technique où certaines machines n'ont pas bien fonctionné. Les difficultés pour beaucoup d'électeurs de retrouver leur nom sur les listes affichées dans les différents bureaux de vote, et beaucoup d'entre eux qui ont vu leur nom élagué sur les listes, sans oublier un bon nombre d'électeurs qui sont rentrés sans voter suite aux lenteurs observées dans le déroulement de vote. Cela témoigne clairement que la CENI a fait les choses dans la précipitation et qu'il faudrait pour elle le temps pour bien faire les choses.
Alors, le mot précipitation revient encore une fois, professeur Bob Kiavamba. Votre réaction sur ce que pense Rémi Lokonga de Kisangani?
Je ne dirais pas précipitation, mais je dirais impréparation. Impréparation parce que généralement, quand on fait des prévisions électorales, quand on fait les prévisions par rapport à un processus électoral, on intègre tous les éléments qui sont indispensables pour pouvoir arriver à un processus qui respecte toute une série de critères. Et ça n'a pas été le cas. Kibangula a déjà bien énuméré toute une série d'éléments qui faisaient déjà en sorte que le résultat que nous sommes en train de vivre est celui-ci. Alors, je voudrais quand même relativiser ce que l'auditeur a dit en disant que ça s'est globalement bien passé. Et pourtant, lorsque je regarde, je lis un petit peu la plupart des éléments qui reviennent de toutes les provinces, je dis bien de toutes les provinces, il y a de la violence un peu partout sur le territoire. Et puis on oublie chaque fois de dire qu'il y a à ce soir plusieurs bureaux de vote, centres de vote, qui ne sont toujours pas opérationnels. Et donc ces gens-là ne vont pas voter, même si on prolonge les délais, même si on donne encore 11 heures, mais ils ne vont pas pouvoir voter. Et alors, quand on parle déjà, rien que le chiffre de la 5e, qui parle de 31%, mais il faut bien se rendre compte que c'est vraiment le tiers de l'électorat qui risque de ne pas être pris en considération. Et nous ne sommes pas uniquement au niveau des élections présidentielles, on est au niveau des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Alors, je vous laisse imaginer les cohérences que l'on va arriver à avoir avec des endroits où on a voté, des endroits où on n'a pas voté. Alors, au niveau provincial, au niveau législatif, mais cela va vraiment un casse-tête inimaginable, et ça va être, je m'excuse de l'expression, un foutoir où on ne saura même pas reconnaître qui a été élu, finalement, qui n'a pas été élu. Et vous ne pouvez pas non plus oublier qu'il y a le calcul du seuil par rapport à la représentation provinciale, par rapport à la représentation nationale. Et ce calcul de ce seuil-là va être calculé de quelle façon? Comment on va calculer encore une fois ce seuil-là? Toute cette question, normalement, dans une perspective de planification, ça se prépare. C'est pour ça que je ne parle pas des précipitations, moi je parle de l'impréparation, c'est-à-dire que la CENI, il faut l'avouer, a été incapable de pouvoir organiser des élections crédibles dans les conditions que les Congolais attendaient. Et puis ensuite, quand nous voyons les chiffres, les budgets pour ces élections, on parle, Kadima lui-même, parle de 1,5 milliard de dollars dépensés pour ces élections, et avec un tel résultat, alors que la population, elle est affamée, insécurisée, etc., etc. Et donc, je pense que véritablement, même pour aller plus loin par rapport à la crédibilité, on va arriver à pouvoir avoir des éléments dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, des éléments qui pourraient amener carrément à dire que ces élections n'en valaient pas la peine de s'organiser et que ben, il faudrait les annuler pour retrouver un peu de crédibilité par rapport au processus, par rapport à la crédibilité et par rapport même à un processus électoral crédible. Et donc, attendons voir les différentes missions qui sont sur le terrain, qui ramènent de manière chiffrée et officielle, et nous allons, j'imagine, comme tous les autres experts, analyser ces chiffres pour savoir est-ce qu'on peut valablement prendre en considération les résultats qui seront publiés. Si ce n'est pas le cas, il faudra penser à envisager à l'annulation plus raisonnable de ce scrutin, en sachant qu'on a jeté par la fenêtre 1,5 milliard de dollars qui sont partis en fumée avec un résultat qui est chaotique.
Louis Magloire, vous n'êtes pas d'accord avec le professeur. On va vous donner la parole après cet auditeur que nous allons prendre pour le professeur Gaucher Kizito.
Alors, pour le professeur Gaucher Kizito, nous allons faire appel à André, qui nous appelle de... André qui nous appelle de Lubumbashi.
André Kankumbui, dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. À mon avis, le quatrième cycle électoral n'a aucune avancée significative. Quand nous avons enregistré beaucoup d'irrégularités, de matériel qui sont venus en retard dans certains territoires, comme à Manono, dans mon village Kilouba, jusqu'à présent on n'a pas encore voté, et autre chose, la plupart des électeurs ont été omis, entre autres, moi-même je suis omis au centre Saint-Benoît primaire dans la commune de Kenya, par erreur, je votais par dérogation.
Professeur, commentaire.
Oui, en fait, entre de Lubumbashi, ils notent effectivement les difficultés qui ont émaillé ces processus, ou disons ces scrutins combinés, c'est-à-dire l'élection présidentielle, législative nationale et provinciale, et pour certaines provinces, les conseillers qui devaient aussi être votés. Et c'est ce que j'ai mentionné dans mon propos. Et dans ce propos, bien évidemment, il y a eu des ratés dans beaucoup de cas, que ce soit du point de vue organisationnel, que ce soit du point de vue technique. Mais au-delà de ces difficultés que j'ai mentionnées précédemment, et je l'ai mentionné aussi, la CENI a pu organiser ces élections, ce qui est une très bonne chose. Et comme le notait différents intervenants, l'important, c'est que pour ces élections, si on peut arriver à cimenter les tissus sociaux, dans le sens où ces élections impliquent différents acteurs politiques, différents compétiteurs politiques, parce que la crainte, c'est de voir qu'à l'issue de ce vote, avec la publication des résultats, que ces résultats peut-être éprouvent des difficultés à être acceptés par tel ou tel autre cas, ce qui pourrait déboucher peut-être sur des violences dans certaines provinces ou peut-être au niveau de toute la République. Donc, bien évidemment, comme André l'a dit, sans pour autant dire qu'il n'y a pas eu aucune avancée significative. Le fait d'avoir organisé 3 scrutins à la fois, c'est quand même un effort qui a été fourni. Et cet effort qui a été fourni, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu réellement de raté par endroit, que ce soit, comme je l'ai dit, du point de vue de l'organisation. On a constaté, par exemple, que dans certains sites de vote, dans certains bureaux de vote, il y a, par exemple, des agents commis à la CENI qui pouvaient peut-être faire entrer X, Y, et qui occasionnaient parfois des violences ou de mésententes ou des désaccords entre les électeurs qui attendaient devant les portes depuis le matin. De ce côté, par exemple, certains sont arrivés à 5h du matin, à 5h30, à 6h, et pour quitter vers 18h et 19h. Et du point de vue des électeurs omis, nous avons aussi constaté quand même cette difficulté. Certains électeurs, peut-être, ils ont été omis parce qu'ils peuvent avoir été enrôlés deux fois, c'est possible, mais aussi on sait qu'il y a des mineurs qui avaient été enrôlés en espérant que, ou en attendant que, lors des élections, ils auront déjà la majorité. Donc c'est question aussi de savoir, par exemple, cet électeur qui a été omis, figure dans quelle catégorie. Autrement dit, il y avait des catégories des majeurs, mais aussi des catégories des mineurs qui devaient maintenant devenir majeurs en temps où on devrait organiser les élections. C'est donc les quelques éléments que j'avais à avancer par rapport à cette observation de cet auditeur de Lubumbashi, M. André.
Merci beaucoup, professeur Gaucher Kizito. Nous allons clore la place à donner à nos auditeurs ce soir en prenant ce dernier auditeur qui nous appelle de Cabaret.
Je suis Magene Kakumbu Jules. Je vous appelle depuis Kavum dans les territoires de Cabaret au sud Kivu. Le déroulement de ces rendez-vous électoraux du 20 décembre 2023 est particulier. D'autant qu'au début de ce processus, beaucoup d'irrégularités étaient au rendez-vous et dénoncées. Voilà la finalité de toutes ces dénonciations. Les chiffres avancés par la CENI des 44 millions d'électeurs est farfelu. Beaucoup de Congolais passent cette journée sans voter les candidats de leur choix. Je pense que le problème, c'est le manque d'une bonne organisation au préalable de ce processus. Sur le plan sécuritaire, la sécurité n'était pas au rendez-vous aujourd'hui dans plusieurs centres du pays. Les irrégularités causées par la CENI, tout au départ, et l'inquiétude du pouvoir en place de l'incompétence, étant donné qu'on ne va plus réorganiser les élections à cette année, nous demandons à la CENI de publier les vrais résultats, les choix exprimés par le peuple congolais, non seulement pour jouer un jeu démocratique, mais aussi épargner les Congolais de toute éventualité de violence qui peut surgir en cas que la CENI publie un candidat qui n'a pas gagné les élections.
Trésor Kibangula, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de l'auditeur qui nous appelle depuis Cabaret?
Oui, je note que Dialogue entre Congolais n'a pas trouvé un auditeur qui salue la qualité du processus ou le déroulement du processus aujourd'hui. Mais en même temps, avant de répondre à cette question sur la publication des résultats, parce que c'est très intéressant, je pense qu'il ne faut pas jeter aujourd'hui les bébés avec l'eau du bain. Après tous ces constats et en attendant les rapports plus détaillés des autres missions d'observation indépendantes déployées à travers le pays, je pense aussi qu'il faut commencer à regarder ce qui reste encore à sauver. Il y a des bureaux de vote qui sont en train de clôturer le vote à Kinshasa, d'autres ont déjà fermé et clôturé à travers le pays, les fiches ou le bulletin, le PV commencent à remonter. Et je pense que dans les bonnes pratiques en matière électorale, j'ai vu que la CENI a prévu un centre de publication progressive des résultats ici à Kinshasa. On appelle ça Bosolo, où les résultats vont commencer à arriver au fur et à mesure, ça va être affiché. Maintenant, c'est le temps pour tous les partis politiques, les parties prenantes, la société civile, de passer à cette prison appelée, ce qu'on a qualifié de surveillance électorale, d'assister à ces dépouillements qui ont commencé dans les grandes villes ou à travers le pays, surveiller ce qui se passe, sécuriser le suffrage exprimé et suivre ces processus dans les centres locaux de compilation, parce que c'est là-bas aussi que ça va se jouer lorsque ces centres locaux de compilation vont consolider les résultats qui vont venir des bureaux de vote. Donc c'est très important d'avoir des observateurs, des témoins dans toute cette chaîne de publication et comme ça on pourra voir l'impact de ces centres de publication progressive des résultats que la CENI vient de mettre en place, que je salue d'ailleurs parce que ça fait partie des bonnes pratiques dans certains pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud. On utilise ces types de cadres pour essayer de rassurer les partis sur la transparence et la traçabilité des résultats, mais cela dépendra vraiment de ce que les Congolais ou les parties prenantes font en amont, c'est-à-dire dans les bureaux de vote, pendant les dépouillements, comment est-ce qu'on sécurise le suffrage exprimé, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, et ensuite suivre ces résultats au niveau des centres locaux de compilation.
Et écoutez, je pense que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de notre spécial hein, qui a été organisé en deux parties, la spéciale élection du 20 décembre en République démocratique du Congo. À cette partie de l'émission, vous avez l'orientation à nous donner.
Alors nous tournons vers la fin de l'émission, comme vous venez de le dire, Dona Madimba, je vais vous donner le temps, Magloire, de pouvoir réagir au propos du prof Bob Kabamba, mais avant cela, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les prochaines élections, pour éviter de vivre ce que les Congolais ont vécu aujourd'hui?
Non, je pense véritablement, comme le disait Trésor à très juste titre, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certes des imperfections, mais ce processus électoral est organisé par des hommes, et l'homme est par nature imparfait. Moi, je crois qu'à terme, il faudrait que l'on arrive à estimer que le fichier d'état civil est tout aussi important, voire plus important que le fichier électoral. Parce que si le fichier d'état civil est bien tenu, forcément, on aura un fichier électoral digne de ce nom. Et aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont prises par le mauvais bout, que l'on donne une importance disproportionnée au fichier électoral et que dans le même temps, on néglige un peu le fichier d'état civil. Pourtant, les deux doivent marcher ensemble et pour moi, celui qui a la prépondérance, c'est le fichier d'état civil parce que c'est celui qui permet de connaître la population du pays, de savoir qui est né, qui a grandi, qui a atteint la maturité et comment on se projette pour préparer des élections dans 5 ans, parce que c'est pas la même chose d'avoir 1 million de jeunes qui auront l'âge de voter ou d'en avoir 50 qui auront l'âge de voter. Donc pour moi, ce fichier doit être bien tenu. Et la deuxième chose, une fois qu'on a évacué la question du fichier d'état civil et du fichier électoral, c'est de prendre très à cœur la question de l'organisation du scrutin. C'est un événement typiquement technique qui ne doit pas être politisé autant que nous le vivons aujourd'hui. Dans la plupart des pays, c'est quelque chose qui est organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale ou de l'intérieur. Cela dépend de la terminologie qui est utilisée, mais on doit en arriver à ça. À faire en sorte que, sur le plan historique, la personne qui est chargée, qu'elle soit physique ou morale, qui est chargée de l'organisation des élections, ait une expérience. C'est pas pour rien que souvent, pour engager des gens dans un travail, on leur demande des années d'expérience. Pour la Commission électorale nationale indépendante, ça doit être le même calcul. On doit estimer que si on confie l'élection à une commission électorale qui part de zéro à 1 mois ou à 6 mois des élections, le résultat qu'on attendra d'elle, c'est presque le résultat d'un stagiaire. Et c'est presque ce que nous avons aujourd'hui avec toutes ces contestations-là. Cela dit, si on ne s'arrête que sur les contestations, c'est presque se moquer des populations du Massissi et du Rutshuru qui ne peuvent pas voter aujourd'hui parce qu'elles sont dans une situation de crise véritable. Il y a des déplacés intérieurs, il y a des gens qui sont en situation de conflit et qui ne peuvent pas voter. Dans d'autres circonscriptions, la commission nous dit qu'on organisera des élections et qu'elles se tiendront un jour après. On prolongera d'un jour ou qu'on pourra même faire des élections partielles une fois qu'on aura terminé le processus. Mais quid de toutes ces populations aujourd'hui qui sont en dehors de la vie politique nationale, de la vie électorale du pays? Pour moi, c'est ça qui est important. Donc pour moi, ce qu'il y a à prendre en compte aujourd'hui pour que la population se sente complètement investie dans le processus qu'elle finance et qui détermine son avenir, c'est qu'on arrive à faire des fichiers d'état civil dignes de ce nom et qu'on arrive à faire une commission technique qui s'occupe de l'organisation des élections et qui peut avoir une expérience sur le long terme qui lui permet d'être légitime et d'être rodé dans le processus pour ne pas avoir tout le temps à reprendre tout de zéro avec tous les risques que cela comporte quant à l'issue et la crédibilité des élections.
Merci Louis Magloire Kemaye, journaliste camerounais, écrivain et président du club de l'information africaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Bob Kabamba, nous sommes dans la partie conclusion. Qu'est-ce qu'il faut améliorer?
Alors, ma conclusion, je voudrais rectifier ce que Magloire a dit et mettre ma bouche. J'ai bien expliqué en disant qu'en fonction des évaluations qui seront faites par les missions d'observation qui sont sur le terrain, à partir de ces observations et à remonter tout ce qui est en train de se passer, qu'il y aura une évaluation par rapport à la crédibilité ou non d'un tel processus. C'est ce que je voudrais rectifier. En termes de perspectives, c'est que nous voyons très bien que le processus est mal engagé. De mon point de vue, pour avoir participé en 2006, 2011 et 2018 à ces différents processus, il est important d'avoir ce qu'on appelle l'appropriation du processus par la population. Et aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui s'est passé, je vois mal comment les gens vont encore être remobilisés demain après demain pour pouvoir encore repartir aller voter, en sachant bien qu'aujourd'hui c'était congé, et demain, est-ce que ça sera congé? Ça ne sera pas congé? Est-ce que les travailleurs vont pouvoir ne pas aller travailler et repartir encore pour aller voter, etc., etc., etc. Et donc, tout ce qui vient de se passer, et il est important de retrouver la confiance de la population, de l'électeur. Et de mon point de vue, attendons les évaluations des missions d'observation, remonter et on évaluera, et en fonction de ça, il y aura certainement des recommandations qui seront faites, et parmi ces recommandations, il ne sera pas étonnant de pouvoir dire, bah oui, il faut refaire le fichier électoral, il faut refaire ceci, il faut refaire ça, ce qui veut dire, on recommencera presque le processus électoral à zéro. Voilà en conclusion.
Nous allons aussi conclure pour Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pays politique au groupe d'études Ebouteli. Trésor Kibangula, qu'est-ce que on peut à ce stade retenir des opérations de vote d'aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui peut être dit pour améliorer, s'il y avait encore quelque chose à améliorer?
Alors, je pense que le processus électoral a bien avancé, on est à la fin. C'est seulement comment est-ce qu'on va atterrir qui est problématique. Mais il y a encore moyen de sauver le meuble. J'ai parlé de la surveillance électorale, j'ai parlé de la capacité de la société civile et des parties prenantes à surveiller le processus de déploiement. Mais à la longue, à l'avenir, je pense que la solution passerait peut-être par une remise en cause complète de la manière dont on organise les élections dans ce pays. Ça passe notamment par des réformes courageuses de notre système électoral, de la machine, de l'organe de gestion électorale. Est-ce qu'on doit toujours laisser les politiques avoir la mainmise sur la commission électorale ou est-ce qu'il faut penser à d'autres formules pour rendre, comme lui disait, cette commission électorale plus technique et moins politique? Peut-être ça passerait aussi par là, avoir des réformes courageuses pour couper les liens entre l'exécutif et la commission électorale indépendante.
Merci, Trésor Kibangula.
La parole au professeur Gaucher Kizito.
Tout à fait, lui aussi a droit à dire son dernier mot, professeur, à la faculté.
Il a gardé une dent contre nous.
Non, on va lui donner la parole.
Non, pas du tout. Merci beaucoup. Ma petite conclusion, c'est dans le sens de lui, d'autant plus que la politisation de la CENI, dans le sens où la désignation de ses animateurs importe beaucoup de conséquences et ça crée beaucoup de retards du point de vue désignation, mais aussi les conséquences que nous observons du point de vue organisation matérielle, du point de vue technique. Et donc, en conclusion, penser en termes de réformes qui vont dans le sens de l'organisation ou de confier l'organisation des élections à un organe technique. On sait des ministères, qui peut être par exemple les ministères de l'Intérieur ou peut-être un autre ministère. Ça serait peut-être un élément important pour qu'on se passe de toutes ces considérations qui ont de conséquences non réellement intéressantes du point de vue de l'organisation des élections, du point de vue technique, mais aussi du point de vue des mobilisations de tous les acteurs politiques possibles. Voilà donc, il faut donner davantage un caractère technique à l'organisme chargé d'organiser les élections.
Merci, voilà. Professeur Gaucher Kizito, dialogue spécial, dialogue entre Congolais, sur le vote d'aujourd'hui, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui était au four et au moulin pour la production de cette émission.
Guy Maté, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga. Et bien évidemment, à la présentation...
Hervé Vaucard, n'oubliez pas Jean-Marc Matouaki, Suzanne Zobo aussi était là, vous avez été très...
Il y avait beaucoup d'équipes combinées, et une équipe,
merci Donna, merci aussi aux auditeurs et internautes qui depuis 19h juste étaient avec nous en train de suivre cette émission. Très nombreux sur nos plateformes numériques et même sur la FM. Nous vous disons merci. On se retrouve demain pour un autre numéro de Dialogue en Congolais.
Au revoir.